France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La Chine, premier gros pollueur, certes oui, mais également, retenez ce chiffre, 55% des panneaux solaires posés dans le monde l'année dernière l'ont été en Chine. 90% des petites voitures des villes chinoises sont électriques. La Chine est-elle devenue la championne de la transition écologique malgré le charbon en ce premier jour officiel de COP30? C'est la question à notre invité. Mahmoud Abbas est à Paris demain, mais pour jouer quel rôle dans le futur? Louise Baudet va nous l'expliquer en remettant le monde à l'endroit. Le reportage d'Un jour dans le monde est en Équateur, dans la forêt amazonienne, avec celles qui la défendent le mieux, les gardiennes de la forêt.
Nous luttons avec les autres femmes pour protéger le territoire. Nous ne voulons pas que nos terres soient polluées par les mines d'or ou les compagnies pétrolières.
Un reportage de Célia Kiré que vous découvrirez autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé l'ancien président sud-coréen qui risque la prison à vie. On a besoin qu'on nous rafraîchisse un peu la mémoire. Et Cyril Sauvageau est en Espagne avec la BO du Monde. C'est le flamenco qui redevient hyper tendance. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. C'est Xi Jinping, bien sûr, qui parle. Nous sommes à l'ONU le 24 septembre dernier. Le président chinois promettait alors de nouvelles baisses des émissions nettes de gaz à effet de serre dans son pays d'ici à 2035, de 7 à 10%, et nous nous efforcerons de faire encore mieux, c'est ce qu'ajoutait Xi Jinping. Bonsoir Sébastien Treyer.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Pour préparer cette émission, je suis donc tombé sur ce chiffre que je citais tout à l'heure en titre, 55% des panneaux solaires posés dans le monde en 2024 l'ont été en Chine. On va y aller évidemment dans le détail du paradoxe chinois qui reste un pays pollueur, mais quand même, est-ce qu'on peut dire sans mentir que l'on parle de panneaux solaires, que l'on parle d'éolien, que l'on parle de batteries, que oui, la Chine, c'est l'hyperpuissance de la transition écologique?
C'est vraiment le mot hyperpuissance, c'est-à-dire que depuis plus de 15 ans, déjà avant l'accord de Paris, le gouvernement chinois a fait le pari économique d'une stratégie extrêmement stable dans le temps, de soutien à tout ce qui est l'électrification des usages, véhicules électriques, batteries et énergie renouvelable. Et donc, on a le résultat, c'est-à-dire une Chine qui a réussi à faire baisser le coût de manière drastique des panneaux photovoltaïques, qui a aussi, qui l'a beaucoup installé sur son marché, mais qui a en fait de telles capacités industrielles à ce sujet que ça dépasse son marché intérieur.
Et on y viendra effectivement à ces capacités industrielles. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel? Parce que si on vient tout juste en 2010, le charbon est roi toujours. Il n'y a pas de marque, si je ne m'abuse, il n'y a même pas de marque automobile électrique en Chine à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? L'impulsion, c'est quoi? Parce qu'on est juste avant Xi Jinping en plus en 2010, donc ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que l'ensemble du modèle industriel chinois change finalement?
Je peux pas complètement expliquer tout ça parce qu'il y a en plus probablement des batailles politiques internes qui sont pas forcément très transparentes. Ce qui me semble, c'est que la Chine fait du long terme. Mmh. Et la Chine se dit quelle va être l'économie de demain. Et je crois qu'elle a aussi anticipé le fait que le changement climatique allait être très dommageable pour elle-même et que donc il fallait de toute façon qu'elle décarbone son économie vu la place qu'elle a dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc pour se protéger et pour protéger le reste de la planète, mais aussi pour prendre un coup d'avance sur les autres.
Vous dites pari d'ailleurs. Est-ce que c'est un pari ou est-ce que c'est une préscience? C'est là que sera l'avenir, l'économie mondiale, elle est là. Ouais, il y a une forme de préscience, vraiment.
C'est un peu entre les deux, c'est-à-dire une bonne anticipation de ce qui va devenir la modernité économique des années qui viennent. Mais il y a toujours un peu un pari de savoir à quel moment il est trop tôt ou trop tard, comment est-ce qu'on peut le faire.
Est-ce que, à votre avis, vous nous l'avez dit déjà, ça part tout de suite par une multitude d'entreprises, par une production de masse, il y a même une concurrence extrêmement féroce des provinces elles-mêmes et des entreprises elles-mêmes, en fait. Et au fond, elle sert à quoi cette concurrence massive? Est-ce que le but du jeu, précisément, c'est de faire en sorte que tout le monde se bouffe le nez pour arriver au meilleur produit, sachant très bien, en ligne de fond derrière, de toute façon, on va le vendre, ça. Et on sait déjà que les autres auront besoin de nous. Est-ce que ça aussi, c'est déjà dans les têtes ou pas?
En fait, ce qui n'est pas complètement clair, c'est de voir exactement quel est le pari de la politique industrielle chinoise. Ce pari, cette préscience, comme vous le disiez, que la modernité sera électrique, ça, je pense que c'était très juste. En revanche, la manière de le faire, c'est-à-dire donner des objectifs de production aux provinces et ensuite mettre les entreprises en concurrence entre elles, ça crée forcément une très forte compétitivité. Donc, c'est une manière de prendre une capacité de compétitivité, enfin, un avantage compétitif compétitif par rapport au reste du monde qui est massif, mais en même temps qui dépasse largement la capacité d'ingestion, d'absorption du marché intérieur lui-même. Mais donc ça renvoie de nouveau la Chine dans un modèle extrêmement dépendant des exportations, qui est ce qu'on lui reproche et qu'on pourrait d'ailleurs, plusieurs acteurs économiques internes pourraient lui reprocher à elle-même aussi. Et donc là, il y a une incohérence pour moi de la politique industrielle chinoise qui repose sur le fait de vouloir inonder la planète. Et on est dans une situation que les économistes chinois appellent involution, où la concurrence interne devient négative et les entreprises chinoises sont extrêmement compétitives, mais pas rentables, parce qu'elles n'ont pas assez de marché.
Mais est-ce que ça veut dire, si effectivement donc elles inondent la planète, ça veut dire que pour que cette économie perdure, pour qu'ils ne se cassent pas la figure, effectivement, avec ce modèle dont vous le dites vous-même, qui peut être un peu bizarre a priori, pour que ça ne se casse pas la figure, il faut de toute façon se rendre complètement indispensable et que le reste du monde soit dans la paume de leurs mains. Et le fait est que là-dessus, c'est réussi, non, pour l'instant?
Effectivement, il y a une domination technologique qui me semble encore plus importante à avoir en tête que la domination sur un certain nombre de terres rares qui a fait la une des journaux récemment.
C'est l'innovation, en fait, qui est en tête, pas tellement les terres rares que l'innovation. C'est
exactement ça. En fait, pendant un temps, on a pensé que la Chine allait être l'usine du monde, mais en fait, en disant ils ne vont pas être dans l'innovation. On avait fait la même erreur sur le Japon dans les années 70. Hein. Et donc, la Chine est une grande puissance d'innovation, et c'est extrêmement important de le voir comme ça. Maintenant, je pense que cette domination, un certain nombre... Moi, j'ai entendu il y a deux semaines un professeur de l'université de Tsinghua qui forme les grands cadres au sein des entreprises privées et du gouvernement chinois. Un professeur de Tsinghua dire, en fait, il faut qu'on change de modèle. Il va falloir qu'on essaye d'être encore plus actif sur la décarbonation à l'intérieur, avec des bons du trésor chinois qui vont essayer de subventionner ça pour que la demande soit encore plus forte en intérieur, pour réussir à diminuer la part de marché qu'on prend dans les pays, notamment nos pays alliés comme l'Indonésie. Un des objectifs que se fixait ce professeur, c'est un exercice académique dont je parle, et qu'on en parle devant moi en Chine, ça veut dire qu'il avait une forme d'autorisation à le dire. Un des objectifs du plan, c'était non seulement d'avoir la rentabilité de la Chine, mais de réduire de 80 à 60% la part de marché de la Chine en Indonésie, des technologies chinoises en Indonésie. Ils se rendent bien compte que inonder les marchés de leurs partenaires économiques, de leurs partenaires commerciaux, n'est pas très bon à court terme parce que les pays en question vont mettre des barrières commerciales. C'est le cas des États-Unis, on le voit de manière très visible, l'Union européenne y réfléchit, mais même la Turquie, le Brésil, l'Indonésie y réfléchissent. Et puis à moyen terme, si on veut faire jouer un avantage compétitif, il faut qu'en face, notre partenaire commercial soit aussi prospère.
Donc ça veut dire que ça peut être une forme de bulle quand même qui peut aussi éclater. En tout cas, si je vous comprends bien, y compris les économies chinoises ont cette crainte-là. Que ça devienne cette bulle-là, au fond, comme l'a été l'immobilier à un moment dans l'économie chinoise.
Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse exactement dire bulle à ce moment-là, mais c'est sûr que ce qu'ils anticipent... Pardon, je dis bulle parce que j'essaie de comprendre quelles peuvent être les conséquences financières. Et là, je pense qu'il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus longtemps pour avoir une réponse précise. L'analogie qui est juste, c'est qu'en fait, les économies chinoises anticipent les conséquences sociales possibles d'une consolidation, c'est-à-dire en fait de la fin darwiniste d'une compétition féroce. Il ne va rester que quelques constructeurs automobiles, et donc il y aura un certain nombre d'ouvriers de ce secteur qui vont se retrouver au chômage. Et donc ça, ces conséquences sociales, c'est ça qu'ils veulent éviter. Et donc il va falloir trouver le bon niveau de réglage sur la demande intérieure et ce qui va pouvoir être écoulé sur les marchés extérieurs pour pouvoir naviguer ce moment assez, assez difficile. Et je tiens à dire que c'est le même moment où la Chine est en train de décider de son 15e plan quinquennal. Et il y a aussi des questions de fin du mandat de Xi Jinping. Et donc c'est un moment qui est assez délicat pour comprendre comment vont être prises les grandes décisions économiques dont dépendent pas mal le reste de la planète.
Mais est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui il y a effectivement 55% des panneaux solaires construits qui sont installés en Chine, s'il y a autant de voitures électriques en Chine, est-ce qu'on le force ce marché intérieur en fait ? Est-ce qu'on y va à la chinoise ? Ou est-ce qu'il y a quand même à un moment une volonté, y compris, ne serait-ce que pour des questions d'environnement d'ailleurs, parce que la grande période du charbon qui rendait les gens malades, il y a eu des choses qui ont été très claires là-dessus en Chine. Est-ce que donc c'est une volonté quand même de l'intérieur du marché et qui vient de la protection, de leur protection et de celle de la planète ? Ou est-ce que ça se fait à la chinoise ? Vous achèterez des voitures électriques et ce sera comme ça et pas autrement, pour dire
les
choses.
Je pense que c'est les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une volonté de gagner une concurrence mondiale sur ce secteur qui a été vraiment de pousser une politique industrielle. Et je tiens à le souligner, pas uniquement avec des aides d'État aux industries, c'est aussi des objectifs de production, une concurrence, etc. Et par ailleurs, un vrai souci de pollution de l'air, comme vous le soulignez, l'industrie, le charbon. Aujourd'hui, la plupart des gens qu'on rencontre en Chine sont extrêmement fiers que les villes chinoises soient beaucoup moins polluées parce que les véhicules sont passés à l'électrique et parce que les usines ne sont plus aussi polluantes.
Les aides d'État, effectivement, aux industries, elles sont quand même toujours très fortes. Il y a non seulement les aides d'État aux industries, mais il y a aussi les aides des gens pour acheter, aux gens pour acheter des voitures électriques, etc. Est-ce que ça, c'est toujours très très haut? Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il fallait peut-être faire redescendre un peu cette grosse pression vis-à-vis des pays voisins, est-ce que l'une des solutions, c'est pas de faire tomber les aides? Est-ce qu'on en est là aussi en Chine ou pas?
Je pense qu'une des choses qu'il faudrait, c'est pas tant faire tomber. Alors faire tomber les aides, je pense qu'il y a des aides d'État dans pas mal de régions du monde. Hein. Les États-Unis, qui est un grand pays libéral, fait beaucoup d'aides d'État et pas uniquement le plan IRA de Joe Biden. Hein. Il me semble qu'en Chine, ce qui est extrêmement important, c'est de faire croître le marché intérieur. Une manière de le faire croître, c'est notamment de faire comme ils ont déjà fait, de réfléchir à la question des marchés publics. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que les villes chinoises ont, il y a beaucoup de véhicules électriques dans les villes chinoises. Les flottes publiques des grandes collectivités sont aussi des moyens de faire croître une certaine demande. Et puis ensuite, il y a le marché de l'occasion. Donc, je pense que la question de faire croître le marché intérieur est une vraie question. Et si les aides d'État se mettent là-dessus, ou si la politique d'État, pour parler pas uniquement d'aide qui ressemble à uniquement une logique de subvention, ça me semblerait plutôt une bonne chose.
Après, Sébastien Treyer, il y a quand même toujours du charbon, évidemment, en Chine qui n'a pas disparu. Est-ce qu'on peut dire, et à quelle échelle, qu'en effet, oui, le charbon peut disparaître de Chine en termes d'énergie?
Alors, tout ce que disent les experts chinois, c'est que avant de pouvoir faire sortir complètement le charbon de la production énergétique et de la production électrique chinoise, il faut s'assurer que les renouvelables, la production d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable est à échelle suffisante et que les moyens de la stocker et de la connecter à travers un réseau sont en place. Et donc, il y a des aspects infrastructurels. Je pense que ça, c'est assez juste. On voit la même chose en Europe et dans tous les pays qui mettent en place des renouvelables. En revanche, c'est vrai qu'on aurait aimé que la sortie du charbon soit planifiée un peu plus tôt. Et on va voir avec le 15e plan quinquennal qui est en train de se discuter actuellement en Chine et qui va être annoncé en début d'année prochaine, si effectivement il y a un peu de pression qui est mise sur les grandes provinces charbonnières. Je pense qu'il y a aussi un enjeu très politique hein, de grandes provinces qui dépendent du charbon pour trouver des emplois à un certain nombre de personnes, à leur population active. Et donc ce que gère le gouvernement chinois, c'est comment est-ce qu'on subvient à une demande électrique qui croît très vite soit avec du charbon, soit avec des énergies renouvelables, et qui gère la temporalité de tout ça. Mais la Chine a dit « je serai neutre en carbone en 2060 ».
Là-dessus, et ce sera ma dernière question, Sébastien Treyer, le déni climatique de Trump, jusqu'à quel point il joue pour la Chine, y compris d'ailleurs vis-à-vis de ses voisins, y compris dans un rassemblement comme celui de la COP qui vient de commencer aujourd'hui, par exemple, en quoi ça joue, ça?
Je pense effectivement que ce que dit le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui va à la COP30 à Belém, c'est de dire « nous, on est des acteurs territoriaux et économiques qui pensons que l'avenir c'est l'électrification. Et il ne faut pas qu'on prenne du retard là-dessus. Et donc toute tergiversation qui dirait on va moins soutenir les énergies renouvelables et les industries électriques, c'est en fait perdre du temps par rapport à un acteur qui est déjà, qui a déjà un avantage compétitif énorme.
D'autant que j'ai compris en vous écoutant qu'en termes d'innovation, c'est même pas une question de quantité, mais même en innovation, rattraper la Chine, c'est pas demain la veille, quoi.
C'est ça. Alors je ne veux pas non plus être complètement pessimiste, excusez-moi, il faudrait presque une autre émission pour en parler, mais il y a en Europe un certain nombre d'acteurs très innovants sur lesquels on peut aussi s'appuyer, mais pas exactement sur le photovoltaïque, je crois que c'est plus la peine d'essayer ça. Sur le recyclage des batteries, on va en avoir besoin si on veut s'assurer de ne pas dépendre de la réimportation de nouvelles matières premières. En revanche, sur l'efficacité énergétique du bâtiment, les matériaux, ou sur l'efficacité énergétique à travers des logiciels et de la microélectronique qui permettent de gérer l'efficacité énergétique, là, on a des fleurons technologiques en Europe, donc il ne faut pas non plus se flageller, hein. Il y a des choses qu'on peut défendre.
Eh bien, vous reviendrez pour nous en parler, Sébastien Treyer. Vous êtes le directeur général de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Merci beaucoup. La suite, ce soir, c'est vous, Louise Baudet. Vous remettez le monde à l'endroit.
Il est arrivé tout à l'heure à Paris et sera demain à l'Élysée le président palestinien Mahmoud Abbas. Mais de quel état est-il le chef?
Allez, c'est juste après ça.
Something you said the other night made me believe. I look at you innocently. something you said. Now should we change, make an affair? I wouldn't want to spoil our friendship. How will we know? Simple kiss can be so telling. I care for you, and you care for me. Shouldn't we be loving together? This kind of loving don't need no kissing.
Something You Said, c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise Mahmoud Abbas reçue demain à l'Elysée avec tous les honneurs dus à un chef d'État. Vous nous expliquez pourquoi la photo s'annonce à la fois historique et trompeuse.
Et ouais, cette fois, il aura droit aux honneurs militaires, cavaliers, fantassins, musiciens de la garde républicaine en grande tenue de service dans la cour et sur le perron du palais de l'Elysée. Mahmoud Abbas, reçu de nombreuses fois en ces lieux, mais jusqu'ici jamais comme chef d'État. Il est désormais l'homologue d'Emmanuel Macron, chef non plus de l'autorité palestinienne, mais de l'État de Palestine, depuis cette reconnaissance solennellement formulée par le président français à la tribune de l'ONU le 22 septembre dernier. Il y aura donc demain la poignée de main, voire l'accolade, évidemment chaleureuse, sous les flashs des photographes amassés derrière le cordon de sécurité. Nouvelle marque de la confiance entre les deux chefs d'État, arrivés main dans la main au sommet pour la paix de Sharm el-Sheikh en Égypte il y a bientôt un mois.
Mahmoud Abbas est donc désormais clairement sur la photo, mais de quel État est-il le chef ?
Eh oui, le peuple palestinien. La nation palestinienne existe, mais l'État de Palestine est pour l'heure virtuel, sans frontières établies, sans continuité géographique, sans monnaie propre ni capacité à exercer la puissance publique. Mahmoud Abbas lui-même, qui fêtera dans 5 jours ses 90 ans, est un dirigeant vieillissant. Son autorité est très limitée, sa légitimité également minée par la corruption et l'absence d'élections depuis 20 ans. Il est pourtant la moins mauvaise carte pour les pays arabes et les Européens, convaincus qu'il n'y a pas de paix durable au Proche-Orient sans solution à deux États. L'enjeu est donc d'inclure l'autorité palestinienne que Mahmoud Abbas a promis de réformer dans le dispositif du jour d'après, malgré l'opposition d'Israël et jusqu'ici des États-Unis.
Parce que la paix imaginée par Donald Trump au Proche-Orient, elle se fait sans Mahmoud Abbas et les Palestiniens.
En tout cas, le plan de paix qu'il a présenté fin septembre fait à peine mention de l'État palestinien. Vu comme un horizon flou et lointain, le sort de la Cisjordanie est ignoré et le rôle de l'autorité palestinienne dans la gouvernance de la bande de Gaza, pas même esquissé. Les pays arabes et les Européens insistent au contraire sur la place que les Palestiniens doivent occuper, en lien avec l'administration transitoire de l'enclave, ce comité pour la paix que Trump lui-même présiderait, en lien aussi avec la force de stabilisation censée se déployer pour désarmer le Hamas et préparer la reconstruction de Gaza.
Il n'y aura pas de Palestiniens dans cette force de stabilisation.
Et non, pour l'instant, l'autorité palestinienne en tout cas n'y joue aucun rôle, pas plus que dans le pilotage futur de Gaza qui serait assuré par une administration transitoire composée de technocrates. C'est en tout cas ce que prévoit le projet de résolution déposé la semaine dernière à l'ONU par les États-Unis. Et ça, c'est important. Donald Trump, qui déteste le multilatéralisme, est d'accord pour donner un cadre onusien à cette force de stabilisation. Demande express des pays arabes ou musulmans qui envisagent d'y envoyer des troupes. Trump qui joue collectif, c'est rare et cela donne de l'espoir aux diplomates arabes et européens qui s'activent, mais en coulisses. Pas question de tout faire dérailler avec une déclaration intempestive risquant de fâcher le faiseur de paix américain. On verra quels mots choisiront demain Emmanuel Macron et son homologue palestinien dans leur déclaration commune prévue en fin de journée.
Merci beaucoup. Louise Baudet, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde qui est au cœur de l'Amazonie ce soir, alors que s'ouvre la COP30 à Belém au Brésil, c'est en Équateur que nous allons. Comment préserver l'Amazonie, comment limiter les ravages de la déforestation? Les communautés autochtones veulent se faire entendre lors des discussions. Elles se battent au quotidien contre des pressions liées à la soif d'or ou de pétrole. Et en Équateur, donc, petit pays couvert à moitié de forêts, les nationalités indigènes tentent de vivre de leurs ressources naturelles. Et ce sont les femmes qui sont aux avant-postes contre les chercheurs d'or illégaux ou les projets pétroliers. Ce sont elles les gardiennes de la forêt. Le reste, c'est Célia Kigray qui raconte.
Dans cette communauté de Taipare, ce sont les femmes qui nous accueillent. Un maquillage rouge autour des yeux, des plumes sur la tête, des colliers de graines, des vêtements en fibres de palmier. Elles servent une boisson traditionnelle, une bouillie de manioc fermentée avec leur propre salive. Je ne l'ai pas goûtée. Dans la cuisine, des oiseaux sauvages cuisent sur du feu de bois. Des femmes lavent leur vaisselle au bord de la rivière. Mais leur quotidien est bousculé par l'appétit des entreprises minières qui tout autour dans la forêt.
Je suis Rosalba Nenkimo. Je fais partie de la communauté d'Aipare. J'ai été élue présidente de l'association Les Femmes de la Forêt.
Cette femme menue, discrète, n'hésite pas à s'interposer comme bouclier face aux industriels.
Nous luttons avec les autres femmes pour protéger le territoire, notre communauté. Pour nos enfants, nous ne voulons pas que nos terres soient polluées par les mines d'or ou les compagnies pétrolières. Nous savons que le gouvernement veut investir parce qu'il a envoyé des avions pour faire des photos de nos terres. Ici, dans la province de Napo, ils cherchent des puits de pétrole et des mines d'or, mais ils ne sont pas venus voir les communautés.
Alors pour préserver leur terre, leur mode de vie, ces femmes cultivent des fruits, de palmiers, des agrumes, du cacao, du curcuma. Lesbia Cerda nous emmène dans la forêt, on s'éloigne de la rivière.
Ici, dans la première parcelle, nous avons des agrumes, des oranges, des citrons. Là, dans la deuxième, nous produisons du bois comme du cèdre ou des fruits qui n'existent qu'ici, du cacao sauvage et du cacao blanc.
Ça, c'est de la vanille?
Oui, c'est de la vanille. Nous l'avons récoltée, elle sèche et ensuite on prend les extraits pour produire nos crèmes pour la peau. Oui, ces crèmes pour le visage et pour le corps se vendent bien.
Ces femmes fabriquent aussi des colorants naturels, une économie locale indispensable pour Santiago Giraldo de l'Agence française de développement.
Grâce à ça, leur territoire il survit. Et grâce à ça, la communauté peut rester ici, contribuer justement à garder et protéger leur environnement. Ils sont les gardiens de la biodiversité.
Rosana Mano-Salvas, chercheuse et représentante d'une ONG, nous alerte sur les ravages de l'orpaillage illégal dans ces communautés.
Effectivement, dans les dernières années, cette activité, l'orpaillage illégal, s'est étendue en Équateur et elle a surtout changé d'échelle. Il ne s'agit plus de petits projets artisanaux locaux comme avant en Amazonie. Là, dans le contexte de violence, de narcotrafic, ce n'est plus la même dimension. Oui, il y a bien un lien entre le narcotrafic et l'orpaillage illégal en Équateur.
Et en effet, l'argent du narcotrafic finance ici les chantiers d'orpaillage. Or, les femmes qui sont en première ligne en paient parfois un prix bien trop fort.
Ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont les plus menacées, qui souffrent le plus. Il y a de la prostitution dans ces mines illégales et dans les alentours. Elles sont les principales victimes, les petites filles, il faut les protéger.
Ici, dans cette communauté éloignée des villes, les femmes espèrent que leur voix sera entendue jusqu'à Belém, lors de la COP30. Depuis 2008, l'Équateur reconnaît les droits de la nature dans sa constitution, mais ça ne suffit plus. Elles veulent croire que les États les aideront à défendre leurs forêts si précieuses pour l'humanité.
Célia Kiré pour le reportage. Célia, merci beaucoup. La COP, évidemment, on continue à la suivre dans le 18-20. La suite ce soir, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Guillaume Audard.
Et entre le Tigre et l'Euphrate, j'ai trouvé 21 millions d'Irakiens appelés aux urnes dans une région en plein bouleversement.
Allez, la VO du Monde, c'est chaque lundi. Et c'est vous, Cyril Sauvageau.
En Espagne ce soir, derrière le succès de Rosalia, le phénomène du flamenco 2.0.
Allez, ne bougez pas, les amis, le temps de faire une nouvelle escale au Cameroun, chez Blik Bassi. Une chanson sur l'exode rural et ses conséquences. Djeyemé, c'est le choix musical de Djoubaka, ça a 10 ans déjà, 2015.
Djeyemé arale mpleni kime kwem nsangya sang yani Djeyemé aranu pleni kime mbum Kwe masang yani Njeyeme 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 Njeyeme
Bassi, Djeyemé sur France Inter. Comment ça se passe sous les radars, l'actualité internationale? Eh bien, on demande à Guillaume Audard.
Tanzania is in the grip of a state-engineered massacre.
Et c'est donc en Tanzanie que nous allons, Guillaume, pour commencer. Ce que décrit cette activiste glace le sang. Elle dit que le pouvoir orchestre, ni plus ni moins, un massacre d'État.
Oui, l'accusation est lourde. Elle émane de l'opposition en exil au Kenya voisin. Accusation corroborée par des vidéos très difficiles à soutenir. Celle de dizaines d'hommes gisant au sol dans des flaques de sang. Ils ont été visiblement abattus et laissés pour compte dans les rues de Dodoma, la capitale. Ces images paraissent authentiques. En tout cas, elles ont été diffusées par la chaîne Al Jazeera. Il faut dire que depuis le 29 octobre dernier, et la réélection très contestée de la présidente Samia Suluhu Hassan, 98% des voix, des urnes bourrées, des candidats exclus et Internet coupé, la répression est extrêmement violente, à balles réelles, 1000 morts, disent les ONG au bas mot, des corps auraient été jetés à la mer, et d'autres données en pâture aux crocodiles, affirment certaines voix en clandestinité. Les inculpations pour trahison se multiplient. Ce week-end, c'est le vice-président du principal parti d'opposition qui a été placé sous les verrous. La Tanzanie, jadis modèle de stabilité, bascule dans un chaos qui, pour l'heure, n'émeut pas grand monde.
Jour de vote en Irak, 329 postes de députés sont à pourvoir. Ce lundi, ce sont les forces de sécurité qui se prononcent les premières.
Oui, vote par anticipation des policiers et des militaires, ils sont 1 million un jour avant le grand jour, c'est-à-dire demain, mardi 11 novembre, officiellement pour éviter un engorgement des bureaux, en réalité pour assurer un maximum de sécurité dans un pays qui connaît ses 6e législatives depuis la chute de Saddam Hussein, qui a connu après l'invasion et l'occupation américaine une guerre civile extrêmement meurtrière et l'apparition de Daesh en 2014. Pour autant, en 20 ans, date des premières élections générales, la classe et les visages politiques se sont très peu renouvelés. C'est ce que nous dit ce jeune homme qu'on a entendu dans les rues de Bagdad. Sauf que la région, elle a beaucoup changé, notamment depuis le 7 octobre 2023, où à l'est, le grand voisin iranien a nettement perdu en influence. À l'ouest, la Syrie prend un chemin de normalisation avec Washington et peut-être même avec Israël en Irak. Pays jeune et multiconfessionnel, longtemps ballotté entre influences étrangères, corruption des élites, fatigue populaire, un mot revient sur toutes les lèvres, stabilité. 21 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ce qui va d'abord compter, c'est le taux de participation.
Et donc pour terminer, Guillaume, l'histoire d'un ancien président accusé d'avoir trahi sa patrie, et c'est en Corée du Sud que ça se passe.
Oui, la scène, elle se déroule dans l'ambiance grisâtre d'une conférence de presse donnée par la procureure générale du pays. Elle détaille, carte à l'appui, les derniers chefs d'inculpation devant des journalistes médusés, dont celui gravissime de chef d'inculpation d'aide apportée à un ennemi de l'extérieur. Alors le parquet accuse Yoon Suk-yeol, l'ex-chef d'État, d'avoir délibérément provoqué Pyongyang en envoyant des drones survoler la Corée du Nord. Tout ça pour déclencher une confrontation armée avec son voisin nucléaire. Objectif de ce pari pour le moins risqué, créer une situation absolument intenable, justifier la loi martiale et s'installer au pouvoir pour de longues années. Mais vous vous en souvenez, la démocratie sud-coréenne, elle a tenu bon, c'était l'hiver dernier. Au terme d'une séquence assez chaotique, ce dirigeant conservateur avait été destitué, il avait imposé sa loi martiale, la rue s'était révoltée, l'armée n'avait pas suivi. Et aujourd'hui, le voici tout proche de la prison à vie, voire, parce qu'elle existe encore là-bas, de la peine de mort.
Guillaume Audat, merci beaucoup. Le lundi un peu, hein. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait la planète en tournant, ça s'appelle la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, Cyril, en Espagne, où le flamenco connaît depuis quelques années un étonnant regain de popularité. Une nouvelle génération d'artistes qui dépoussière le genre, avec en chef de file la chanteuse Rosalía, dont le nouvel album vient de sortir.
Un disque tellement osé, tellement original, entre musique classique, électro, R&B, qu'on peut se poser la question, faut-il encore parler de flamenco ? Mais c'est bien de là que vient Rosalía, et cette influence, elle est toujours bien présente. Depuis ses débuts à Barcelone, il y a une dizaine d'années, Rosalía est à l'avant-garde de ce néo-flamenco ou flamenco 2.0, une nouvelle vague espagnole qui détourne et recycle des éléments typiques du genre, la guitare acoustique, les claquements de mains, les palmas, et les remet au goût du jour pour une génération du hip-hop et des réseaux sociaux. Ici, le chanteur madrilène, c'est Tangana, autre poids lourd de la discipline. Sur ce titre de son album El Madrileño, il invite carrément les Gypsy King à la guitare.
No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. Ingobernable, el amor de mis amores.
Derrière ces locomotives, c'est toute une scène qui bouillonne et qui s'exporte dans toute l'Amérique latine et au-delà, avec des producteurs comme El Guincho, Alize ou de jeunes chanteuses qui s'inscrivent dans la droite lignée de Rosalía. Exemple, Maria José Liergo, originaire d'Andalousie.
Cette réinvention moderne de la culture flamenco, Cyril, ne fait pas toujours l'unanimité.
Mais on parle ici d'un trésor national, une culture classée au patrimoine de l'UNESCO, une part essentielle de l'identité de l'Andalousie et de la communauté gitane. Cette identité ne risque-t-elle pas de se diluer dans la grande sono mondiale ? C'est ce que redoutent les gardiens du temple. En tant que chef de file du néo-flamenco, Rosalía est bien consciente de ces critiques qui la poursuivent depuis ses débuts. Elle qui a a pourtant étudié le flamenco pendant 7 ans, raison pour laquelle elle multiplie les hommages aux grandes figures du genre, comme sur ce titre de 2022, Bulerías.
Donc cette réinvention moderne de la culture flamenco, ça je l'ai déjà dit, ne faites pas surtout de l'unanimité, pardon, la tendance au métissage dans l'univers du flamenco.
Vous ne suivez pas, Fabienne.
Je ne suis pas du tout. J'étais en train d'écouter, je suis très cliente en fait. Bref, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Non, ce métissage, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans les années 70, on parlait déjà de nouveau flamenco avec l'irruption du guitariste Paco de Lucía et du chanteur Camarón de la Isla, les premiers à confronter le flamenco aux instruments du rock et de la pop. D'autres, après eux, iront plus loin encore dans l'expérimentation, jusqu'à flirter avec le jazz ou la musique africaine. Mais ce qui se passe en ce moment est d'une autre nature. Depuis quelque temps, les musiques latines cartonnent dans le monde entier auprès d'un très jeune public, biberonné au hip-hop, à l'électro. Il suffit de voir le succès d'un artiste comme Bad Bunny, la superstar de Porto Rico. Le contexte semble donc particulièrement favorable à ce néo-flamenco qui rêve de faire danser la planète. On danse ou pas, Fabienne?
Mais on danse, mais quand je vous dis que je suis cliente, je suis totalement cliente, j'adore. Merci beaucoup, Cyril. Revenez lundi prochain.